Donc nous allons poursuivre aujourd'hui l'étude de la première épître de Jean. Et avant de prier, je vous en rappelle un peu la structure. On avait divisé cette première épître de Jean en cinq parties. La première partie, si vous vous en souvenez, je l'avais présentée comme une catéchèse. Celui qu'on a vu de nos yeux, entendu de nos oreilles, touché de nos mains. Je vous annonce la parole de vie. La marche dans la lumière, la confession du péché, et nous dit Jean dans le chapitre 2, verset 1, « Je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. » Et ensuite, il va parler des enfants, des jeunes gens et des pères. Donc on voit là une catéchèse qui commence par le message principal pour les enfants. Nous commençons tous comme des enfants. Le message de lumière, la confession, le pardon en Jésus. Et ensuite, cette promesse de la croissance. Ça, c'était la première partie. Et la deuxième partie, c'est le chapitre 2, la fin du chapitre 2, concernait les faux messies, les faux oints de Dieu. Donc, on ne va pas redévelopper tout ça, mais l'axe principal que j'avais développé, c'est celui du mensonge. Nous pouvons être un faux oint de Dieu simplement parce que nous vivons une vie de mensonge, ce que nous professons, mais pas ce que nous vivons. Rien que cela fait de nous des faux messies, puisque je vous rappelle que le mot chrétien, c'est le mot qui veut dire oint, donc messie, petit messie. Et enfin, la partie centrale, donc 1, 2, 3, 4, 5, la partie centrale, c'est le chapitre 3, que nous avons commencé la dernière fois. Et c'est là qu'apparaît vraiment le cœur du message, c'est-à-dire l'amour de Dieu et l'amour pour le prochain. Et donc c'est ce que l'on va développer aujourd'hui. Et la prochaine fois, on reviendra sur la quatrième partie où les faux prophètes sont le pendant des faux messies. Puisque Jésus dit qu'il y a des faux messies et des faux prophètes. Un faux prophète interprète faussement la parole de Dieu pour justifier le message des faux messies. Et à la toute fin, chapitres 4 et 5, Jean revient une deuxième fois sur le thème de l'amour. Donc vous voyez, cinq parties avec au cœur, comme c'est souvent le cas dans la pensée orientale, le principal, le cœur du message, le commandement d'amour. Et la dernière fois, nous avions commencé à voir ce commandement d'amour dans le chapitre 3 de l'épître de Jean. Et on avait à nouveau découpé ce chapitre 3 en cinq blocs, si vous vous souvenez. Et les deux premiers blocs concernaient le commandement d'amour et la nouvelle naissance. Le fait d'être enfanté de Dieu, et celui qui est enfanté de Dieu, qui est né de Dieu, nous avait dit Jean, ne pêche pas. Et donc la dernière fois, on s'est posé la question, mais qu'est-ce que ça veut dire qu'être né de Dieu implique ne pas pécher. Autrement dit, que se passe-t-il dans notre nature pour qu'un nouveau principe soit mis en place par Dieu de manière surnaturelle et nous fasse nous détourner du péché pour nous tourner vers Jésus. Et donc aujourd'hui, on va voir la suite, la conséquence de cela qui est le commandement d'amour. Donc avant cela, on va prier et ensuite on va regarder le texte. Donc à partir du verset 10, Seigneur, nous voulons nous présenter devant toi ce matin comme des vases de terre, des vases qui ont besoin d'être remplis par ton esprit. Nous savons que en nous-mêmes, il n'y a rien de bon, comme le dit Paul, dans notre chair, il n'y a rien de bon. Donc nous venons à toi comme de simples pécheurs. Et quand bien même nous ne pécherions pas, nous avons une nature qui est charnelle et corrompue. Donc nous n'avons rien à te présenter. Et c'est de toi que nous recevons toutes choses. C'est toi qui as porté cette nature à la croix. C'est toi, comme on vient de le dire, qui nous a régénérés par ton esprit, qui a mis en nous un principe de vie, qui nous a fait naître à la vie de l'esprit, qui nous a fait entrer dans le royaume de Dieu, dont auparavant nous n'avions aucune idée. C'est toi qui nous as pris des ténèbres, et nous as transportés dans le royaume de lumière, le royaume du Fils. Donc merci, et que tout ce qui puisse être dit ce matin puisse exalter ce Fils et vraiment le mettre au centre de nos pensées. Amen. Donc depuis le départ, je vous lis une version un peu particulière, hein, puisqu'elle résulte d'une traduction du Nouveau Testament, mais à partir de l'araméen. Donc ça va sonner parfois un petit peu bizarre, mais après vous avez vos propres versions pour comparer. Mais ça permet d'expliciter certains mots et certains termes qui autrement ne seraient pas forcément très clairs. Et je vais vous donner des exemples justement aujourd'hui. Donc on va lire la deuxième partie du chapitre 3 de la première épître de Jean à partir du verset 10. Et comme ça va être assez long, puisqu'on va aller jusqu'au verset 24, je vais vous le lire en trois morceaux, parce qu'il y a vraiment trois thèmes bien précis, et on va commenter tour à tour chacun des trois thèmes, et vous allez voir qu'à la fin, on va pouvoir tout unifier. Donc d'abord, des versets 10 au verset 15. Par ceci sont distingués les fils et filles de Dieu des fils et filles de Satan, l'adversaire. Tout homme qui ne met pas en œuvre la justice et n'aime pas ardemment son frère n'est pas de Dieu. Du fait que ceci est le commandement que vous avez entendu dès le début, dès le commencement, que nous nous aimions ardemment l'un l'autre. Non pas comme Caïn, celui-là même qui était du malin et qui tua son frère. Et à cause de quoi l'a-t-il tué? Sinon parce que ses œuvres étaient mauvaises et celles de son frère étaient justes. Ne vous étonnez pas, mes frères, si le monde présent vous hait. Nous, nous connaissons que nous sommes passés de la mort à la vie par ceci, nous aimons ardemment nos frères. Celui qui n'aime pas ardemment son frère, sa sœur, demeure dans la mort. Car tout homme qui hait son frère tue l'humain qu'il est. Et vous connaissez qu'en tout homme qui tue un être humain, la vie éternelle, celle qui dure d'âge en âge, ne peut pas demeurer. Donc vous voyez, c'est une traduction un peu différente voilà, de ce que vous pouvez lire. Et donc là-dedans, je reprends deux, trois thèmes pour ne pas faire trop, trop long. Quand j'ai lu ce passage, la première chose qui m'a frappé, c'est mettre en œuvre la justice et aimer ardemment son frère. Alors, des fois, il y a des expressions qui nous paraissent un petit peu abstraites. Alors, on se dit mettre en œuvre la justice, oui, aider son prochain, les bonnes œuvres dont on parle souvent. Mais là, il est dit un homme qui ne met pas en œuvre la justice et n'aime pas son frère. Et je me suis demandé, mais c'est quoi le lien entre la justice et aimer le frère? Et donc, avant que de mettre en œuvre la justice envers le prochain, faut-il encore que nous connaissions la justice de Dieu en nous? Parce que nous ne pouvons pas produire l'amour par nous-mêmes. En nous-mêmes, comme le dit Paul, en moi, c'est-à-dire dans ma chair, il n'y a pas d'amour, il n'y a rien de bon. Certainement pas l'amour de Dieu, et certainement pas la justice de Dieu. Et c'est peut-être la première chose, quand on entend le commandement d'amour, ah bon, ben, il va falloir que je sois gentil avec l'un, avec l'autre, il va falloir que... Et on essaye par nous-mêmes de jouer au bon chrétien, hein, pour sauver les apparences. Mais ce n'est pas ce que nous montre la parole, puisqu'elle dit que l'amour pour le prochain est indissociable de la justice, et d'abord de la justice de Dieu en nous, pour qu'ensuite je puisse l'exercer en miséricorde avec le prochain. Et ça veut dire quoi? Accomplir la justice de Dieu en nous. De manière très pratique et très concrète. Si je veux aimer mon prochain, je dois pratiquer la justice, Mais cette justice doit d'abord être accomplie en moi. Ça veut dire quoi? Par exemple, l'amour accomplit la loi. Comment j'accomplis la loi si je ne sais pas d'abord que je suis pécheur? C'est le sens de la prière que j'ai donnée tout à l'heure. Se présenter d'abord devant Dieu comme un pécheur, comme un vase de terre qui a besoin de sa grâce, qui a besoin de sa miséricorde. Confesser qu'en nous-mêmes, nous n'avons rien de bon, je l'ai déjà dit plusieurs fois. Réaliser que toute justice est en lui et en lui seul. Et ne pas être comme un pharisien, comme il est dit dans Matthieu 6, qui pratiquait leur justice devant les hommes afin d'en être vu. Donc, le commandement d'amour ne résulte pas d'un effort qui vient de nous-mêmes, il vient d'abord de l'accomplissement de la justice en nous en réalisant que nous n'avons pas cet amour-là. Et quand on essaye de l'imiter, nous ne sommes jamais qu'un religieux pharisien. Et quand on essaye de l'imiter, c'est d'abord pour le mettre en pratique devant les hommes. Parce qu'il faut quand même montrer qu'on est un bon chrétien. Et sourire le matin, etc., etc. Donc la justice de Dieu s'accomplit en nous quand véritablement nous avons connu la repentance, c'est-à-dire que nous n'avons plus d'illusions sur notre propre nature. C'est ce qui détache les regards de nous-mêmes et les dirige vers celui qui a été fait justice de Dieu pour nous, c'est-à-dire Jésus. Et donc le secret de la vie chrétienne, je vous l'ai souvent dit, ne tient qu'à une seule chose, à ce regard simple que l'on a sur Jésus, qui a été fait pour moi justice, sainteté, sagesse, amour, puissance, tout ce que l'on peut imaginer de promesses dans la parole de Dieu a été sécurisé et placé par le Père en le Fils. Donc, ce n'est pas la peine d'essayer d'aimer son prochain si le regard du cœur intérieur n'est pas centré sur le Fils. Parce que s'il n'est pas centré sur celui en qui je vois toute sainteté, toute justice et tout amour, son esprit en nous ne va pas pouvoir manifester cet amour pour le prochain. Et donc, le secret de la vie chrétienne, c'est ce regard sur Jésus qui permet à l'esprit d'accomplir ce que notre chair est incapable de faire. Notre chair est corrompue, elle le sera jusqu'à la fin, elle est irréformable. Donc, les promesses de Dieu viennent d'un autre endroit que de notre nature même. Ça vient de la vie de l'Esprit, et cette vie de l'Esprit découle d'un regard qui est centré sur Jésus. Qu'est-ce qu'il en est de la première pensée quand on se réveille le matin? Est-ce que le cœur, la pensée, s'élève vers Jésus? Est-ce que dans la journée, notre pensée, de temps en temps, s'élève vers lui? Est-ce qu'on a la pensée et le regard de l'amoureux ou de l'amoureuse qui pense à son bien-aimé ou à sa bien-aimée? Parce que c'est véritablement ça, quand on a rencontré Jésus, quand on a vu un tout petit peu de sa gloire, un tout petit peu de sa gloire, c'est-à-dire la gloire divine, c'est la beauté de son caractère, la beauté de sa personne. Et quand on a vu un tout petit bout de cela, qu'on a vu que toute perfection et toute vertu ont été placées en lui, alors on cesse de puiser en nous-mêmes les ressorts pour aimer notre prochain, pratiquer les bonnes œuvres et ceci et cela. Ça doit découler de ce regard qui est centré sur Jésus. Il est amour. Ou comme dira Jean un tout petit peu plus loin dans l'épître, Dieu est amour. Et combien souvent nous essayons de produire ces choses-là par nous-mêmes, et on finit par se fatiguer, et puis on finit par se lasser, parce que ça découle de nous-mêmes, de notre propre énergie, et non pas comme conséquence de notre regard qui est centré sur Jésus, et Jésus seul. La vie chrétienne est une question de regard. C'est comme les Israélites qui avaient été mordus par les serpents dans le désert. Ils avaient juste à regarder le serpent d'airain. Et pour nous, c'est absolument pas différent. Mais je crains que vos pensées ne se détournent et se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Jésus. Dit Paul dans 2 Corinthiens 11, le serpent va tout faire pour détourner notre regard de Jésus. Donc l'accomplissement du commandement d'amour tient à l'œuvre de justice de Jésus et à cet amour que du coup il va répandre dans notre cœur, comme le dit Paul dans Romains 5, étant justifiés par la foi, la justice, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Et, j'avance, et l'amour de Dieu est répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit. Donc, expérimenter l'amour de Dieu est la conséquence directe de la justice. On n'a pas d'amour pour le prochain, et je vais voir ensuite comment ça se manifeste. Il y a un problème au niveau de l'œuvre de justice dans notre vie. Il y a un problème de placement de Jésus dans notre vie. Il n'est pas au cœur, il n'est pas au centre. Vous voyez ? Cause, conséquence. S'il n'y a pas la conséquence, il y a un problème au niveau de la cause. Et ça tient vraiment à notre perception de Jésus. Donc ça, c'est le premier point. Plutôt que d'essayer d'être religieux et d'imiter la vie chrétienne en aimant notre prochain, considérons déjà la justice, si elle est bien accomplie en nous, si on a bien saisi l'œuvre de la croix, notre statut de pécheur devant Dieu, gracié et vase rempli par son esprit, et en conséquence de l'œuvre de Jésus à la croix. Donc ça, c'est le premier point. Et vous allez voir qu'ensuite, la mise en pratique de la justice, ce sera le deuxième passage qu'on va lire juste après. Donc je n'oublie pas la mise en pratique. Mais avant de parler de justice pour le prochain, commençons par la justice de Dieu à notre égard. Je pense que souvent, c'est là que ça pêche. C'est là qu'est le problème. La place qu'a véritablement Jésus dans notre vie. Après, la deuxième pensée qui m'a frappé quand j'ai lu le texte que l'on a lu tout à l'heure, c'est le verset 12. Verset 11 et verset 12. C'est un commandement, le commandement d'amour que nous avons entendu dès le commencement. Alors évidemment, on se précipite dans la Genèse et puis on regarde et on se rend compte en fait que nous apprenons le commandement d'amour dans le tout début de la Genèse par le récit d'un meurtre. Donc c'est par contraste avec le meurtre que Cain a commis à l'égard de son frère que nous apprenons qu'en fait le plus grand des commandements c'était l'amour. Alors, je me suis pensé un petit peu sur cette question de meurtre, le fait de tuer son frère. Dernièrement, il y a 2-3 semaines, je suis monté à Paris et dans l'assemblée, il y avait quelqu'un qui avait fait 20 ans de prison pour meurtre. Et c'est quelqu'un, je ne sais pas si j'ai rencontré déjà quelqu'un d'aussi doux que lui. Vraiment, ça m'a frappé, sa paix, sa douceur. Voilà, il avait eu tout le temps d'intégrer ce qu'il avait fait. Mais vous allez me dire, mais moi je n'ai tué personne. Est-ce que vous savez que quelqu'un peut me dire comment commence le meurtre à l'égard du prochain ?
Le péché.
Alors, de manière précise, à l'égard du prochain. Oui, bien sûr, la source, c'est dans notre péché. Mais quelle est la première expression du meurtre à l'égard de notre prochain ? Et pour vous aider, je peux vous faire lire 1 ou 2 versets. Alors, je vous aide. Est-ce que quelqu'un veut bien lire Jérémie au chapitre 9, le verset 8 ? Jérémie, chapitre 9, verset 8.
Leur langue est un trait meurtrier, ils ne disent que des mensonges. De la bouche, ils parlent de paix à leur prochain, et au fond du cœur, ils lui dressent des pièges.
Le début du meurtre, c'est le péché de la langue. La langue, ce que nous disons à notre prochain, et la manière dont nous le disons. C'est comme ça que commence le meurtre. Également dans Proverbe 12, verset 18. Proverbe 12, verset 18.
Les paroles du bavard blessent comme des coups d'épée, tandis que le langage des sages est comme un baume qui guérit.
Est-ce qu'il y a une autre version ?
12, verset 18.
12, 18.
Tel qu'il parle légèrement, blesse comme un glaive. Mais la langue des sages apporte la guérison.
Voilà. On parle légèrement et cette parole est comme un glaive qui perce l'autre. Le meurtre commence là. Quand on pense que Jésus disait, si tu dis insensé à ton frère, tu mérites la gêne. À combien plus forte raison des paroles blessantes, des paroles qui piquent. C'est le début du commencement du meurtre. Et les deux versets que l'on vient de lire comparent ces paroles-là à un glaive avec lequel on va percer l'autre. Donc vous voyez, on peut se dire, oui, Caïn, il a tué son frère, il a pris une pierre ou quelque chose. Hein, moi, j'ai jamais commis ça. En fait, devant Dieu, combien de fois nous avons tué notre frère ou notre sœur par le péché de la langue, qui est comme un glaive. Trois fois dans ma vie, j'ai expérimenté de trois personnes différentes une parole, je ne sais pas si vous l'avez expérimenté ça, qui vous a littéralement, physiquement, vous l'avez senti, qui vous a percé l'intérieur. À chaque fois, ça m'a valu nuit blanche, enfin, c'était vraiment des paroles, mais perçantes. Voilà, c'est comme ça que l'on tue son prochain. Il n'y a pas besoin d'un revolver, d'une épée ou d'une mitraillette, c'est simplement par la langue. Donc, qu'est-ce qu'il en est entre nous ? Est-ce qu'il y a des bisbilles ? Est-ce qu'il y a des pics ? Est-ce qu'il y a des... Vous voyez ? C'est comme ça que l'on tue. C'est comme ça que... Et Jean nous dit ici que celui qui n'a pas l'amour tue son frère. Tout homme qui est son frère, en particulier le manifeste déjà par la langue, il le tue. C'est un meurtre devant Dieu. Et pourquoi est-ce que Caïn a tué son frère? Pourquoi est-ce que Caïn a tué son frère?
Par jalousie.
Il est dit parce que ses œuvres étaient mauvaises, alors que celles de son frère étaient justes. C'était quoi les œuvres d'Abel? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a... De quoi est-il question quand il est question des œuvres d'Abel? Œuvres qui étaient justes. Est-ce que vous vous souvenez de l'histoire? Qu'est-ce qu'il a offert à Dieu?
Premier-né
du troupeau. Et de quoi a-t-il témoigné quand il a offert les premiers-nés du troupeau? Il est dit donc avec leur graisse et leur sang. De quoi a-t-il témoigné en offrant les premiers-nés du troupeau? Qu'est-ce qu'il était en train de dire à Dieu? Il disait, voilà ce que je mérite. Vie pour vie, 100%. Je suis un pécheur, voilà ce que je mérite. Et par là, il était déjà en train d'annoncer le sacrifice de l'agneau de Dieu. Donc on voit que l'esprit qui l'animait était un esprit de prophétie et que l'œuvre qu'il accomplissait pointait déjà vers la croix. Voilà ce que je mérite. Je devrais, voilà, je donne, je répands le sang dans lequel il y a l'âme. Voilà ce que je mérite. Je devrais être mis à mort comme ses premiers-nés. Il était en train d'annoncer. Donc on voit, c'est la raison pour laquelle Abel apparaît dans Hébreux 11 comme le premier des héros de la foi. Dès Hébreux 11. C'est le premier héros, c'est le premier qui par ses œuvres a témoigné de l'œuvre accomplie par celui qui devait venir, l'agneau de Dieu. Et inversement, qu'est-ce que Caïn a offert? Qu'est-ce que Caïn a offert? Vous rappelez? Quelqu'un se rappelle? Vas-y. Voilà. Autrement dit, les fruits d'un sol que Dieu avait maudit. Et là, on a une image là. Caïn offre l'agneau, donc on va dire l'agneau de Dieu en esprit. Alors que Abel offre l'agneau, là où Caïn offre le fruit d'un sol qui est maudit. La chair, l'esprit. Caïn agissait par la chair, et ce qu'il produisait, et on va traduire ça en langage moderne, en termes d'œuvres religieuses, on a parlé un petit peu tout à l'heure des visions un peu bizarres, qui ne sont pas insufflées par l'esprit de Dieu, mais ça vient de l'exaltation de la chair, hein, ça... Voilà, toutes ces choses que l'on produit par la chair, et là où c'est le plus dangereux, c'est sur le terrain religieux. Parce que là, la chair, elle est fortiche. Elle est fortiche pour imiter la vie chrétienne, mais ça vient de la chair. On offre, en fait, les fruits d'une chair qui est maudite de Dieu. Parce que, comme je l'ai dit, la chair, elle est corrompue, elle est irréformable. au contraire d'Abel qui offrait à Dieu l'agneau de Dieu. Vous voyez ? Donc la chair contre l'esprit. Donc pour résumer ici, et pour que notre chair religieuse évite de s'emparer de la parole de Dieu et pour l'imiter, ce que je mets en avant, c'est que le fait que tout est accompli en Jésus, que toute source est en Jésus, et que plutôt que d'essayer d'aimer son prochain avec des paires de guillemets dans tous les sens, la première chose que nous devons faire, et au fond la seule, c'est de développer notre communion avec Jésus, parce que c'est la source, en fait, d'où découlera tout le reste. Le religieux voit des tonnes de commandements, des tas de choses à faire dans la parole. Il dépense son énergie à mettre tout ça en pratique et il oublie la seule chose qu'il faut faire dont découlera tout le reste de la parole, c'est la communion avec Jésus parce qu'il a tout et que nous n'avons rien. Donc là, je parle comme Calvin quand je dis ça, puisque tout le cœur de la pensée de Calvin, c'est l'union à Jésus, à celui qui a tout parce que je n'ai rien. Et donc je ne peux que recevoir de celui qui a tout si j'ai bien compris et confessé par l'Esprit de Dieu que je n'ai rien. Et à partir de là, on peut commencer à regarder les commandements dans la parole, mettre en pratique ceci ou cela, parce que tout découlera de la source qui est Jésus lui-même, qui est toute beauté, toute perfection, en qui Dieu a tout placé, tout sécurisé, parce que nous, nous sommes comme des vases percés, on n'arrête pas de tout perdre, même quand Dieu met son esprit, il a tout placé en Jésus, tout sécurisé en Jésus, alors là j'ai fait un néologisme, trésorisé en Jésus, de telle manière que la justice soit en lui, l'amour soit en lui, et je ne peux manifester cet amour, non pas par ma chair, mais par l'esprit, que si par ailleurs je l'expérimente avec Jésus déjà. Donc ça commence par la communion avec le Fils avant que d'aller le manifester auprès du prochain. Et souvent on court à faire des œuvres et à pratiquer des choses en se disant faut être un chrétien, faut être un bon chrétien, rendre un bon témoignage comme je l'ai souvent entendu, mais on oublie le principal. Voilà, on court comme Marthe, mais on oublie de s'asseoir d'abord au pied de Jésus. Donc c'est lui qui a tout. Et tant qu'on n'a pas acté ça, la justice de Dieu n'est pas accomplie en nous. Et tous les efforts qu'on fait pour mettre en pratique la parole vont résulter d'une chair religieuse. Et après, on s'étonne qu'au bout de 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, on est lassé, fatigué, et on ne voit toujours pas l'accomplissement des promesses de Dieu à l'horizon, et on se demande ce qui se passe. Le problème, il est à la source. Le problème, il est dans notre relation intime avec Jésus. Voilà. Ça, c'est ce que... Voilà, je voulais partager par rapport à ce que l'on vient de lire, donc le lien entre la justice et l'amour, et le contraire de l'amour qui est le meurtre, qui commence par la langue. Ça, c'est la première partie. Donc j'avance parce que je vois que le temps avance. Donc nous allons lire maintenant les versets 16 à 20. Donc toujours pareil, dans une version un peu remaniée, mais c'est bien que de temps en temps, on soit bousculé. Par ceci, verset 16, « Par ceci nous connaissons son amour ardent envers nous, en ce que lui, littéralement, a donné son âme, c'est-à-dire s'est donné lui-même, en notre faveur, en échange des nôtres. » L'araméen, c'est la notion d'échange qui est là. Il a donné son âme en échange de nos âmes. C'est ce que dit l'araméen. Et nous aussi, il est juste et de notre devoir qu'au sujet de nos frères, nous donnions nos âmes. Notez que par contre, là, il n'est pas dit en échange des leurs. Il n'y a que Jésus qui a accompli un échange à la croix. On ne peut pas sauver notre prochain. Verset 17. Celui qui a en sa possession les biens du monde présent et qui voit son frère qui est dans le besoin et le manque et retient et ferme sa compassion envers lui, qui est dans le besoin, comment y a-t-il l'amour ardent de Dieu en lui? Donc on voit bien là maintenant la dimension pratique de l'amour. Verset 18. « Mes fils, ne nous aimons pas ardemment l'un l'autre par des paroles et par la langue. » Tiens, on retrouve la langue. « Mais par des œuvres et par la vérité. » Et là je rajoute « ferme et affermissante. » Et je vais vous dire pourquoi je rajoute ça. Verset 19. « Par ceci nous connaissons que nous sommes de la vérité, et avant qu'il ne vienne, nous persuadons et réassurons notre propre cœur. » Verset 20. « Du fait que si déjà... » Alors là, c'est une traduction un peu particulière, qui n'est sans doute pas ce que vous allez avoir dans vos Bibles. Donc écoutez bien. « Du fait que si déjà notre propre cœur nous condamne, alors combien plus Dieu serait-il en droit de le faire ?» Lui qui est plus grand que notre cœur et connaît toutes choses. Donc peut-être que quelqu'un peut lire là le verset 20 dans vos traductions.
Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses.
Voilà, si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Et là, si notre cœur déjà nous condamne, à combien plus forte raison Dieu serait-il en droit de le faire? Lui qui connaît toutes choses. Vous voyez? Donc nous ne sommes pas la propre mesure. Des fois, on peut se tromper sur nous-mêmes. Donc, je vais développer un petit peu ces thèmes. Alors d'abord, sans trop insister, la pratique même de la justice. Alors pour rendre les choses un peu pratiques, alors évidemment... Quand on pense à la mise en pratique de la parole, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, je pense immédiatement à l'épître de Jacques, qui est vraiment l'épître de la mise en pratique de la vie chrétienne. Et en particulier dans Jacques 2, à partir du verset 14. « Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver ? Si un frère ou une sœur, et là on retrouve le thème que l'on vient de lire dans l'épître de Jean, si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Oh, allez en paix, chauffez-vous, rassiégez-vous », mais que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Quand je lis ce passage, ça me pose immédiatement une question, et donc je l'adresse à tous. Sommes-nous ou ne sommes-nous que des chrétiens du dimanche matin? On se salue le dimanche matin, on se quitte le dimanche midi, et ensuite on met un autre vêtement dans la semaine. On ne voit pas les frères et les sœurs, on ne partage rien avec les frères et les sœurs, il n'y a pas de vie commune les uns avec les autres, qui permettent de mettre en pratique, tiens, je vois que le frigo est un peu vide, tiens, je vois qu'il manque de ceci, ah, là, il y aurait besoin d'aider un petit peu pour tel ou tel bricolage. Mais comment est-ce qu'on peut le mettre en pratique si on ne se voit que le dimanche matin de 10 à 12? Vous voyez? Là, il y a un problème. L'église, l'ecclésia, c'est pas ce bâtiment. Hein. L'église, c'est une assemblée. Donc, il faut être ensemble. C'est une communauté. Il faut avoir quelque chose en commun. C'est comme ça que l'on met en pratique la parole. Parce que le dimanche matin, de 10 à 12, on s'assoit, on chante, on écoute, on parle, on partage, on repart. La mise en pratique dont on parle là dans Jean et dans Jacques, on ne peut pas la mettre, on peut pas le mettre en œuvre. Donc ça, c'est un point important. Et ça renvoie plus généralement à la conception même que l'on a de l'Église. Ah, la perspective d'avoir une heure de route à faire pour aller dans une église et rencontrer des frères et sœurs, mais comment est-ce que je peux le vivre du coup dans la semaine avec un tel éloignement? Vous voyez? Donc il y a la notion géographique, l'église locale, on se voit, on voit les besoins, on peut rendre visite, mais dès qu'il faut faire une heure et demie, il y a un problème. Donc, le temps et l'espace. Le temps, pas simplement le dimanche matin, l'espace, la notion même de communauté et de vie en commun et de partage et de mise en pratique, présuppose quand même que l'on soit suffisamment proche les uns des autres. Donc, il y a souvent des églises comme ça qui sont éclatées sur des grandes distances. Bah, pas étonnant que les gens ne se voient que le dimanche matin. Mais il y a un problème même, à mon sens, dans la conception que l'on a de l'Église. Il n'y a pas la communauté des frères et sœurs qui sont pas loin et donc que l'on peut voir en dehors du dimanche matin pour mettre en pratique la parole dans des besoins extrêmement concrets. Donc ça, c'est le premier point que je voulais soulever. Le deuxième point se trouve, parce que je vois que l'heure avance, au verset 18. Et c'est là que des fois, on lit des passages, mais on se demande ce qu'il veut bien dire. Est-ce que quelqu'un veut bien lire le verset, relire donc, mais cette fois dans votre version, le verset 18.
Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité.
Alors, n'aimons pas avec la langue et en parole, on comprend, mais en action, on vient de le voir, ce sont des choses extrêmement concrètes. Et ça veut dire quoi mais en œuvre ou en action et en vérité. Que vient faire la vérité là-dedans? Hein, parce qu'on lit des formules comme ça, mais aimer en action et en vérité.
La sincérité.
Alors, tu dis sincérité. Alors, qu'est-ce qu'il peut y avoir encore?
Transparence.
Transparence. Oui, mais c'est bien. Et après, moi, je vous ferai une proposition, évidemment.
Conformité avec Dieu.
Conformité avec Dieu. Alors, c'est là que je vous dis, des fois, on lit des passages et on les lit, on passe dessus sans s'accrocher. Donc, voilà ce que... Donc c'est subjectif, mais voilà ce que je comprends à partir de l'araméen. Parce que le mot qui est employé là pour le mot vérité, c'est un mot dont la racine est être ferme ou affermir. Et cette racine-là, elle est employée pour l'œuvre de l'esprit. Par exemple, quand Paul parle de l'affermissement de notre être intérieur et de notre enracinement de la foi, il est en train de parler de l'œuvre de l'esprit qui affermit notre cœur sur le rocher qui est Jésus. Et donc, une manière simple de lire cela, les œuvres, par des œuvres et par la vérité, ça veut dire par l'Esprit de Dieu qui va affermir le cœur. Ça parle en fait de l'Esprit. Et vous allez voir qu'effectivement, le dernier passage que l'on va lire juste après termine par l'Esprit. Et en fait, c'est déjà là, sous-jacent, la vérité, souvenez-vous, Jean 14, 15 et 15, 16, l'esprit de vérité. Donc d'emblée, dans l'évangile de Jean, on voit que la vérité dont il est question est associée à l'esprit. C'est un esprit de vérité. Donc là, les faire mettre, ne pas aimer par des paroles et par la langue, mais par l'action, par des œuvres, en vérité, c'est-à-dire par l'esprit de vérité. Et donc, je vous rappelle que dans la parole, il est question de trois types d'œuvres. Il y a les œuvres, Galates 5, les œuvres de... Oui, opposées aux œuvres de...
La chair.
Donc, il y a les œuvres de la chair. Également, dans l'épître aux Galates, les Galates étaient confrontés aux œuvres de... La... loi. Donc vous avez les œuvres qui viennent de la chair, vous avez les œuvres qui viennent de la loi, et le point commun entre les deux, c'est que l'homme en est la source. Comme je le disais au départ, l'homme en est la source. Que ça soit une vie paillarde d'un côté, les œuvres de la chair, Paul en donne la liste, ou que ça soit les œuvres religieuses pour se donner bonne conscience sur la balance du bien et du mal. Ça c'est la loi, c'est le légalisme. Les œuvres de la chair pour les athées, les œuvres de la loi pour les religieux, et il y a évidemment les œuvres de l'esprit, les œuvres préparées d'avance afin que nous les pratiquions, qui est la troisième voie, qui est la voie d'échappatoire entre les œuvres de la chair et les œuvres de la loi. Donc les œuvres de l'esprit, là encore, qui ne découlent et ne peuvent découler que de la vie avec Jésus. Donc on en revient toujours à la source, on ne peut pas être conduit par l'esprit si Jésus n'a pas la première place dans notre vie. Et tant qu'il y a une idole qui bloque le flot de l'eau divine, c'est-à-dire le symbole de l'esprit, ben, il faut d'abord s'attaquer aux idoles et regarder qu'est-ce qui fait obstacle. J'allais dire pétard de pétard, Dieu a fait des promesses et c'est pour qu'on les expérimente. Si vraiment on ne les expérimente pas, il faut chercher la cause, il faut chercher la source. Et la source, c'est qu'il y a un défaut dans la relation avec Jésus, il y a un défaut dans qui est Jésus pour nous. C'est là qu'il faut chercher. Le reste découlera de ça. Cherchant le royaume de Dieu et sa justice, c'est-à-dire le règne de Jésus sur ma vie par son esprit, et sa justice, c'est-à-dire l'œuvre accomplie à la croix, et le reste est donné. Donc les œuvres, associer l'œuvre et la vérité, c'est en fait associer les œuvres à l'esprit, pour que ça soit ni les œuvres de la chair, mais surtout pas, parce que c'est là le danger quand on est chrétien, les œuvres de la loi, pour se donner bonne conscience. Hein, combien de gens se lancent dans l'activité ou l'activisme en faisant les œuvres de Dieu, et en fait, c'est parce qu'il y a, il y a une profonde insécurité en eux. Donc ils détournent l'œuvre de Dieu, en fait, pour essayer d'éteindre leur mauvaise conscience. Et non pas des œuvres libres, faites dans, avec un regard qui est centré sur Jésus. Voilà, je n'accentuerai que ces deux points-là pour la deuxième partie. Ça permettra, je pense, d'être dans les temps. C'est plutôt là qu'il faut que je regarde. Oui. Donc, la dernière partie, c'est les versets 21 à 24. Mes bien-aimés, que j'aime ardemment, si notre cœur ne nous condamne pas, nos faces révèlent notre assurance devant Dieu. Et toute chose que nous demandions, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements. Et nous pratiquons des choses excellentes devant lui. Et ceci est son commandement que nous nous confions dans le nom de son Fils Jésus, le Messie, c'est-à-dire loin de Dieu, et que nous nous aimions ardemment l'un l'autre comme il nous l'a commandé. Celui qui garde ses commandements est gardé par lui et en lui, et il réside en lui. Et par ceci, nous comprenons qu'il réside en nous de par son esprit qu'il nous a donné. Et voilà qu'on boucle effectivement sur l'esprit. Donc juste deux, trois points à ce niveau-là. D'abord, le lien avec la fin du passage précédent. Si notre cœur ne nous condamne pas. Donc la version que je vous ai lue tout à l'heure, si notre cœur nous condamne, à combien plus forte raison Dieu pourrait le faire puisqu'il connaît toutes choses. Ça, c'est la manière dont le verset qu'on a lu dans la traduction alternative, c'est comme ça que le comprenaient Augustin, Calvin et d'autres commentateurs. Pas simplement si Dieu nous condamne, Dieu est plus grand, il connaît toutes choses, mais si notre cœur nous condamne, à combien plus forte raison Dieu pourrait le faire, puisqu'il connaît même des choses que nous ne connaissons pas. Ça, c'était le commentaire, la manière dont c'était compris par Augustin et Calvin. Donc c'est intéressant de voir qu'ils lisaient quelque part ce verset-là, comme elle l'est exprimée dans la version orientale en araméen. Mais si notre cœur, dans notre conscience, ne nous condamne pas, et je vous rappelle que dans la parole, la conscience est l'écrin de la foi, conservant le mystère de la foi dans une conscience pure. Si notre conscience est droite devant Dieu, alors ça se voit sur nos faces, parce que nous avons de l'assurance devant Dieu. Et là, il est dit quelque chose d'assez particulier, dont certains milieux se saisissent, d'ailleurs. Et alors, toute chose que nous demandions, nous le recevons de lui. Ah ben, j'aimerais avoir une voiture jaune. Ah ben, je vais te prier parce que j'aimerais que... Et on commence à faire comme ça des prières dans tous les sens. Et vous savez que dans la parole, quand on se saisit d'une vérité qui n'est pas équilibrée par une autre vérité, souvent, on part dans un extrême. Et le verset que je viens de lire est équilibré par un autre. Toujours dans l'épître de Jacques. C'est étonnant de voir les parallèles qu'il y a entre l'épître de Pierre, l'épître de Jean, l'épître de Jacques. Et ici, c'est dans Jacques 4. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier. Tiens, tiens. Vous êtes meurtrier. Ça commence par la langue, on l'a dit. Et envieux, et vous ne pouvez pas obtenir. Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Alors on se dit, chouette, je vais demander. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Combien de demandes on peut faire qui sont en fait égocentrées? Alors que l'amour qui accomplit la loi, c'est l'amour du prochain. Souvenez-vous dans 1 Corinthiens 12, quand Paul parle du corps, de l'unité du corps, avec les membres unis par l'Esprit de Dieu, il dit ensuite, alors là je traduis, hein, pour ne... il dit, bon, vous les Corinthiens qui vous dites spirituel, vous cherchez les dons spirituels, je vais vous montrer la voie par excellence. Et quelle est la voie par excellence qu'il montre? L'amour. Et ça veut dire quoi de manière très pratique? Ça veut dire que les véritables dons de l'esprit se manifestent dès lors qu'on a le bien du prochain en vue. Et non pas l'exaltation de soi, en particulier par certains dons. J'ai jamais compris l'idée que l'on puisse être édifié soi-même par un don spirituel quand 1 Corinthiens 12, 13 et 14 nous montre que l'esprit va se manifester parfois à notre insu par amour pour le bien de l'autre. Et comme tu l'avais dit Abdel au départ, c'est l'autre qui s'en rend compte. C'est l'autre qui s'en rend compte que Dieu est en train de parler. En tant que vaisseau ou vase, on n'a même pas besoin d'en être conscient. Et d'ailleurs, je dirais, il vaut mieux souvent ne pas en être conscient pour éviter que la chair n'enfle. Mais le don spirituel, nous dit Paul dans 1 Corinthiens 12, 13, et ensuite la mise en pratique dans le culte 1 Corinthiens 14, c'est quelqu'un a une parole, c'est quelqu'un a un cantique, ça passe par l'amour du prochain, chapitre 13. Et il dit, je vous montre la voie par excellence. Parce qu'il y avait bien des choses à corriger à Corinthe. Donc c'est une petite parenthèse, mais voilà, on peut demander, parce que là, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Parfois on demande et on reçoit. Et ça se termine mal. Parce que c'est un autre qui a entendu la prière et on se retrouve... Donc là, ce que je vais dire est un petit peu polémique, mais il y a des témoignages de gens qui se disent « Le baptême de l'esprit, il y a le parler en langue, c'est le signe. Donc je demande à parler en langue. » Et ensuite la parole, la personne, elle le reçoit. Mais pas d'en haut, d'en bas. Et ensuite, c'est instoppable. Elle ne peut plus se contrôler. Et vous savez que lorsqu'on perd le contrôle de soi, ça ne peut pas être l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu nous garde toujours dans la maîtrise. Il est toujours maître de nous, nous ne sommes pas maîtres de lui, mais il n'y a pas cette notion de perte de contrôle. Donc, vous voyez, des fois, on peut même recevoir, mais ce n'est pas Dieu qui répond. Hein, la pression du groupe, si je n'ai pas ça, alors je ne suis pas dans le groupe. Ça peut être très très fort, ça. Donc voilà, alors ça veut dire quoi du coup? Là encore, cela veut dire les choses que nous demandons, nous devons les demander en communion avec le Seigneur, premièrement, et deuxièmement, dans le but d'édifier le prochain. On reçoit un frère ou une sœur qui va ouvrir son cœur sur telle ou telle difficulté. Et puis il y a une parole qui va venir, on n'en est même pas conscient, on va l'adresser et ça va toucher le besoin et le cœur de la personne. On n'a même pas besoin d'en être conscient. Mais tac, oh, ce que tu viens de dire, mais voilà, et ça déclenche tout un... Voilà. On veut aider le prochain, on ne sait pas comment faire. La seule chose qu'on peut faire, c'est garder la communion avec le Seigneur et laisser l'Esprit agir. Et hop, le Seigneur va pouvoir faire quelque chose. On demande de l'aide et il le fait. Parce que c'est orienté vers notre prochain. Donc, aider le prochain est fortement lié évidemment à l'amour du prochain. Et surtout, la manifestation de l'Esprit est fortement orientée par l'amour pour le prochain. Et non pas pour soi. Et pas pour l'exaltation de soi. Donc voilà, pouvons-nous tout demander ? Bah oui et non. Mais je pense avoir précisé le cadre dans lequel on peut demander des choses pour le prochain. Et le dernier point, et j'en termine avec là, avec ça. Deux points. Mais l'un est très rapide, en fait, c'est le verset 23, qui en fait boucle avec ce que je vous ai dit dès le départ. Son commandement, c'est que nous nous confions en Jésus et que nous aimons notre prochain. C'est une autre manière de dire ce que je vous ai dit dès le départ, donc je ne vais pas le répéter. C'est par la confiance en Jésus, la foi en Jésus, la communion avec Jésus, et du coup l'amour pour le prochain. On ne peut pas séparer le commandement d'amour de la foi en Jésus, de l'attachement à Jésus, de l'amour de et pour Jésus. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. S'il n'y a pas cette relation d'amour avec lui, cette paix par la justice accomplie à la croix, cette paix en nous, cette conscience qui a été purifiée, on ne va pas pouvoir aimer son prochain. Les deux sont indissociables. Et enfin, le dernier point en 10 secondes, c'est la conclusion du chapitre 3, avant au chapitre 4 que de parler des faux prophètes et des faux esprits. Là, il dit, nous comprenons qu'il réside en nous, le Seigneur, par l'Esprit qu'il nous a donné. C'est l'Esprit de Dieu qui atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Ce ne sont pas les hommes qui l'attestent. Ce n'est même pas la doctrine qui l'atteste. Une fois sauvé, toujours sauvé. Alors, méthode couée, j'essaie de m'en convaincre. Et puis, si jamais il y a quelque chose qui va contre, j'essaie de m'en convaincre. On essaye de se convaincre par la doctrine, alors que c'est l'Esprit de Dieu qui atteste à notre esprit. Donc, c'est un témoignage extérieur qui atteste à notre esprit via les promesses de l'Écriture que nous sommes enfants de Dieu. Il faut l'Écriture, certes, mais il faut qu'elle soit révélée par l'Esprit. Sinon, c'est l'être morte. Et là, on en est avec nos cogitations, nos raisonnements, à essayer de nous convaincre nous-mêmes, ce qui, bibliquement, fait de ce témoignage un faux témoignage. Le témoignage vient de quelqu'un d'autre, il vient de l'Esprit. Et comme j'ai parlé de l'Esprit tout à l'heure avec le mot « vérité », un esprit de vérité, mais voilà que là maintenant, effectivement, l'Esprit, il apparaît explicitement. C'est par l'Esprit qui nous est donné que nous pouvons comprendre que Dieu réside en nous, qu'il agit au travers de nous. Et là, la première des choses qui est la marque de l'Esprit, le véritable Esprit de Dieu en nous, c'est le regard qu'on porte sur Jésus. Parce que l'Esprit a été donné pour glorifier Jésus. Donc la mesure de l'Esprit en nous, c'est la mesure du regard que l'on a sur Jésus. Voilà, je ne vais pas faire plus long, mais voilà ce que je pensais vous partager donc par rapport à cette deuxième partie du chapitre 3 de l'Épître de Jean. Et donc la prochaine fois, on abordera la question des faux prophètes et des esprits de mensonge, donc en symétrique et en pendant des faux messies, des antéchrists, comme le dit le grec. Donc ça sera pour la prochaine fois.